présence, 15h. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Nous recevons aujourd'hui dans cette émission Cécile Edel. Bonjour madame.
Bonjour, bonjour monsieur.
Bienvenue à Lourdes.
Merci, merci.
Et bienvenue dans cette émission. Vous êtes de passage pour une conférence et on va voir que c'est quand même une belle partie de votre vie que d'aller à la rencontre et de proposer une parole forte parce que vous êtes présidente de Choisir la vie.
Oui.
Et vous abordez des sujets qui, en effet, sont forts et clivants dans notre société. Et on va voir que toutes ces questions du respect du début et de la fin de vie sont des questions sur lesquelles on a du mal parfois même à se faire entendre. Et vous nous direz la difficulté aujourd'hui de parler sereinement et objectivement de cette question. Vous êtes mère de famille et vous êtes organisatrice notamment de la marche pour la vie. Vous avez été, vous l'êtes encore peut-être, psychologue, vous exercez encore ce métier ?
Tout à fait. J'ai exercé jusqu'à l'année dernière, en fait, puisque j'étais au Sénégal pour suivre mon mari, qui était parti là-bas pour son travail, et j'ai pu, avec grande joie, parce que j'aime beaucoup mon métier, donc j'ai pu exercer encore là-bas. Et puis là, maintenant, je suis sur Paris depuis l'année dernière, donc j'ai plus mon cabinet, mais par contre, je suis encore psychologue de l'antenne d'écoute que nous avons créé à Choisir la vie qui s'appelle SOS Femmes Enceintes et je suis la psychologue de cette antenne.
Il y a aujourd'hui en France chaque année 230 000 avortements.
Oui.
On a beaucoup parlé à nouveau de la loi Veil. Pourquoi ? Parce que Simone Veil, qui en est l'auteur, est décédée et que ça a été l'occasion à nouveau de reparler du cheminement de cette loi telle qu'elle s'est appliquée, déployée en France. Ce chiffre, tout de même, il fait froid dans le dos, 230 000 avortements.
C'est un chiffre qui est énorme, je dirais accablant, quand on entend quand même qu'il y a 229 000 exactement enfants qui ne voient pas le jour chaque année. Ce qui fait au total, quand on compte, ça fait quand même plus de 9 millions d'avortements depuis cette loi de 75. C'était le 17 janvier 75, la loi Veil. Et c'est vrai que je pense que qu'on soit pour ou contre l'avortement, on ne peut pas être indifférent à ces chiffres-là. Parce que c'est un drame, Simone Veil le disait, vous parliez de Simone Veil, c'est un drame humain. Nous qui suivons ces femmes justement qui appellent au téléphone de l'antenne d'écoute là, on sent bien que c'est un drame pour elles, même dans le choix d'avorter ou non. C'est elles sont face à des questions qui sont des angoisses qui sont énormes. Est-ce que je vais avorter? Est-ce que je vais pas avorter? Quel est le meilleur choix? Ça les place dans une situation très difficile.
Nous aurons l'occasion au cours de cette émission, en particulier à la fin, de redonner des informations pratiques sur tout ce que vous avez créé au sein de cette association Choisir la vie pour justement être vraiment dans le concret, de la main tendue, de l'écoute, notamment ce numéro. Et sur cette question quand même de l'avortement, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'en parler ?
C'est très, très
Je vous interroge moi là-dessus,
oui,
mais,
oui, oui, bien
mais est-ce
sûr.
Que c'est possible ?
Presque impossible, je dirais. C'est très très dur depuis 75. Depuis 75, surtout en France, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas la même chose dans les autres pays parce qu'il n'y a pas ce contexte. Le contexte qui est quand même un contexte assez idéologique, c'est-à-dire qu'il faut se mettre... remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. 75, c'est peu de temps après 68, et cette loi Veil est née quand même d'un mouvement du mouvement féministe et de libéralisation de la femme des années 60-68. Et aujourd'hui, on est toujours enfermé dans ce débat idéologique. On n'arrive pas à sortir de ce débat, finalement. La loi Veil a été érigée comme un veau d'or, et on ne peut pas la remettre en question. Dès qu'on parle de la... J'en ai fait les frais, à Choisir la vie, on en fait les frais tout le temps. Dès qu'on commence à parler de cette loi, de la loi Veil, ou même des lois qui ont suivi, parce qu'attention, là, il y a eu la loi Veil, mais après, en 2001, il y a eu la loi Aubry, qui a encore changé... changer les dispositions de la loi Veil. Dès qu'on en parle, on est tout de suite accusé d'être anti-femme, anti-droit des femmes, d'être contre la liberté de la femme. Voilà. Et ça, c'est très, très difficile parce que, je le dis clairement, c'est pas du tout vrai. On n'est pas du tout contre les femmes. La preuve, c'est qu'on les accompagne, on les écoute, on est proche de leur souffrance. Et surtout, on part du principe que la femme, dès qu'elle est enceinte, est liée à son enfant. Et ça, c'est même, c'est psychologiquement, on le sait. En psychologie, on l'apprend, on le sait. C'est qu'une femme qui est enceinte, au fond d'elle, elle sait qu'elle attend un enfant. Elle n'imagine pas qu'elle attend un amas de cellules. Elle ne dit pas, j'attends un amas de cellules. Elle n'annonce pas à son entourage qu'elle attend un amas de cellules. Elle attend un enfant. Elle attend son enfant. Et donc, dans sa psychologie, elle est liée à cet enfant. Et ça, l'avortement... Va créer une rupture dans ce lien entre la mère et l'enfant. Et c'est un drame. Et vraiment, je le redis parce que je pense qu'il faut que les pouvoirs publics, les gouvernements successifs, auraient dû prendre conscience de l'ampleur de ce drame depuis 1975. C'est un vrai drame.
Mais on vous oppose sans doute très souvent que la loi sur l'avortement est venue en particulier à l'adresse de femmes qui étaient dans des situations de détresse. Et pour lesquelles, finalement, ça devenait la solution, l'avortement.
C'est très compliqué, cette notion de détresse, parce que ce qu'on constate, c'est qu'en fait, l'avortement va engendrer encore plus de détresse que la détresse du départ. Par exemple, je vais vous donner un exemple, on voit souvent des femmes qui vont hésiter à garder ou non leur enfant pour des questions de matériel, pour des questions financières, ce qui est vrai. C'est-à-dire que pour elles s'estiment en détresse parce qu'elles ont un revenu qui est pour elles insuffisant pour élever un enfant, ou alors on a des jeunes filles qui sont mises dehors par leurs parents quand elles décident de garder leur enfant. Je pense que la responsabilité de nous en tant que citoyens, etc., c'est de pouvoir justement combler ce vide financier, ce vide ou affectif même, enfin, de pouvoir pallier aux difficultés matérielles pour que la femme puisse accueillir l'enfant. C'est à nous. Normalement, c'est la responsabilité de... Pour moi, c'est la responsabilité d'un pays de tout faire pour que les enfants puissent être accueillis. C'est le minimum. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc la détresse, on le voit bien avec quand même le syndrome post-avortement. Il y a quand même des syndromes post-avortement. Quand on est sur le terrain, on s'en rend bien compte. Eh bien, il y a encore plus de détresse. Donc l'avortement, je peux le dire, crée encore plus de détresse que la détresse au départ.
Et que dites-vous à celles et ceux qui vous opposent également que... On a le droit de disposer de son corps, on a le droit de disposer de sa vie, que c'est un droit fondamental.
Alors ça, c'est sûr que ça a été un grand slogan qui a été brandi dans les années 70, 75, le slogan féministe qui était de dire « mon corps m'appartient ».
Oui.
Mon corps m'appartient. Et elles le disent encore, c'est-à-dire que c'est toujours le même slogan. Alors ça, c'est très simple. C'est médical, c'est scientifique. Je réponds, mais... Enfin, votre enfant n'est pas votre corps. C'est pas votre corps. L'enfant, il a son devenir propre, il a son existence propre. Il n'appartient pas. C'est pas un kyste qui aurait poussé. C'est pas un des organes de la maman. C'est la preuve, c'est quand l'enfant naît, la maman est encore indemne. Enfin, il y a pas un manque. Hein. Donc il y a l'enfant qui est une vie et il y a la maman qui est une autre vie. Les deux sont liés, mais c'est pas le corps. Voilà, l'enfant n'appartient pas au corps de la mère. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est très inquiétant quand on parle d'appartenir. Appartenir parce que l'enfant n'appartient à personne. Vous voyez, la dernière fois qu'un être humain a appartenu à quelqu'un, c'était au temps de l'esclavage, où ceux qui détenaient des esclaves avaient le droit de vie ou de mort sur leurs esclaves. Eh bien, aujourd'hui, moi, je refuse de me dire qu'on est dans une société où, finalement, les parents auraient le droit de vie ou de mort sur leur enfant. L'enfant n'existe pas que... à travers le désir de ses parents. L'enfant existe pour lui-même et c'est beau de se dire que chaque être humain existe pour lui-même.
Et vous dites l'enfant, il est enfant dès la conception.
Oui. Alors ça aussi, quand on débat sur le sujet de l'avortement, il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes de ce que veut dire la vie et ce que veut dire l'avortement. Nous, clairement, quand on débat, on dit voilà, nous, pour nous, la vie commence dès la conception et se termine à la mort naturelle. Si on n'est pas d'accord là-dessus, sur la vie qui commence à la conception, effectivement, il va y avoir un problème, on ne va pas pouvoir se comprendre. Parce que si j'ai quelqu'un en face qui me dit « bah non, la vie, elle commence qu'à la naissance », ah, alors je comprends mieux pourquoi cette personne accepte qu'on puisse avorter, ou pense que c'est normal, ou pense... voilà. Alors, nous, effectivement, nous pensons que la vie commence dès la conception. Et que c'est un développement, que la vie se développe dans le sein maternel, et que s'il n'y a pas d'interruption extérieure, eh bien, ça va devenir un enfant, plus, et après un adulte, et après une personne âgée, etc. Enfin, voilà. C'est la continuité de la vie. On croit en la continuité de la vie.
Au sein de l'association Choisir la vie, vous avez créé notamment cette antenne d'écoute SOS Femmes Enceintes. Mm. Il y a un numéro de téléphone, on peut le donner,
oui,
évidemment.
Tout à fait.
Le 01 46 97 76 81. 01 46 97 76 81. Lorsqu'on compose ce numéro, quelqu'un décroche ? C'est
oui.
Un répondeur ? C'est quoi ?
Non, nous avons des écoutantes qui se relaient tout le temps pour pouvoir répondre immédiatement. Parce qu'une femme qui est dans une détresse absolue, c'est déjà très difficile de prendre... Moi, je mesure que c'est très dur de prendre son téléphone et d'appeler un numéro comme ça, inconnu. Donc, quand elle fait l'effort d'appeler, elle ne le fera pas deux fois. Donc, il faut vraiment que tout de suite, il y ait une réponse immédiate à son problème. Et voilà, donc on est là, tout de suite, on répond immédiatement.
Nous allons nous arrêter quelques instants, Cécile Edel. Juste après, nous continuons à échanger sur ce qui fait l'essence même de cette association que vous présidez, Choisir la vie. Cette association dont nous avons dit qu'elle parle de la fin et du début de la vie en défendant le début et la fin de vie. Et vous nous direz aussi, peut-être, combien vous œuvrez auprès du personnel de santé qui vit des détresses que les uns et les autres ne soupçonnent pas, parfois. À tout de suite.
Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, la vie des chrétiens en Midi-Pyrénées. Des invités en direct, l'actualité de l'Église dans toute la région.
Vivante Église.
Du lundi au vendredi de 9h à 10h.
Rediffusion 21h.
Un magazine présenté par Emmanuel Pella.
De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Merci Cécile Edel d'être avec nous comme présidente de Choisir la vie.
Merci.
Vous êtes psychologue et vous nous avez dit que avant de commencer cette émission, ça n'est pas un hasard si vous êtes présidente de cette association qui défend la vie du début à la fin, puisque c'est votre père qui l'a fondée en 1982.
Oui, tout à fait, en 1982.
Et est-ce qu'on peut dire pourquoi vous, en 2002 puis 2006, vous investissez toujours plus dans cette association ? Il se passe quand même un événement, un choc dans la famille.
Oui.
Votre nom de famille, votre nom de jeune fille, c'est Raoul.
Oui, tout à fait. Oui.
Qu'est-ce qui s'est-il passé ?
Alors, mon père a créé donc cette association en 82. Il y a mis beaucoup d'énergie tous les jours de sa vie. Il travaillait, c'était une vocation. Hein. Il donnait sa vie entière pour cet engagement, pour les plus fragiles. Et puis, il était rentré comme conseiller municipal. À la municipalité de Nanterre pour justement défendre les valeurs de la vie et de la famille. C'était vraiment son objectif, qu'il y ait une portée politique. Et il y a eu l'attentat de Nanterre que peut-être plusieurs s'en souviennent. C'était le 27 mars 2002. Donc voilà, il y a un forcené qui est arrivé à la fin de la réunion du conseil municipal à 1h du matin. Et il a tiré dans la foule, enfin au niveau des conseillers municipaux et de la mairesse, Jacqueline Fraisse à l'époque. Et mon père, malheureusement, a fait partie des 8 victimes. Donc c'est sûr que c'est une mort qui est très violente et qui est très, très marquante et soudaine. Donc voilà, donc j'ai repris.
Et vous avez assez vite choisi de reprendre le flambeau.
Oui, parce que j'avais 25 ans. à l'époque. Et je m'étais déjà posé plusieurs fois la question de reprendre, enfin de travailler avec lui hein, sur ces questions-là. J'avais participé à beaucoup de manifestations, j'étais déjà engagée. J'étais en admiration, comme beaucoup de jeunes femmes, hein, de mon père, de son engagement. Je trouvais ça extraordinaire et je sentais que j'avais vraiment ça en moi. Donc ça a été comme une évidence. En fait, en 2002, je me suis dit, bah, c'est une évidence, je reprends cette œuvre-là qui me semble vraiment extraordinaire. Et puis voilà.
Et ça m'a beaucoup aidée. Et vous êtes devenue la présidente en 2006.
Et je suis devenue présidente. J'ai d'abord été secrétaire générale et après présidente. Et c'est vrai que maintenant, ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma vie et de mon engagement, en plus de mon engagement familial, bien sûr.
Et donc, nous le disions, Choisir la vie, c'est une association qui défend la vie du début à la fin.
Oui.
Nous avons, dans la première partie de cette émission, beaucoup parlé du début de la vie, et en particulier de cette grande souffrance pour une société que de se dire qu'il y a 229 000 avortements chaque année. Après la loi Veil, et dans la lignée de la loi Veil, et d'où toutes les autres lois qui ont pu être ensuite promulguées. Le début de la vie, donc, on a bien compris, ça concerne très directement ces femmes qui le vivent dans leur corps et le personnel de santé qui entoure ces femmes lorsqu'il faut en particulier accompagner l'avortement. Est-ce que vous avez là des contacts avec ce personnel de santé,
oui,
ces milieux-là ?
Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des femmes, mais vous voyez, l'année dernière, la marche pour la vie avait comme thème principal, comme slogan, IVG tous concernés. Parce que justement, on a trop tendance à enfermer le sujet au niveau des femmes, alors qu'en fait, d'abord, on est tous concernés, évidemment, par ce drame. Et puis, évidemment, il y a aussi l'homme qui est concerné, on n'en parle pas assez. Oui. Mais pas du tout même. Et ça aussi, c'est une grande souffrance pour les hommes. Et d'ailleurs, l'antenne d'écoute est aussi pour les hommes, pas seulement pour les femmes. Et puis, il y a ceux qui vont être complices de cet acte par obligation, parce qu'ils ont du mal à faire objection. L'objection de conscience n'est pas bien connue et pas bien reconnue en France. Et ce sont tous ces soignants qui sont sur le terrain, qui vont devoir pratiquer cet avortement ou être témoins de ces avortements. Et ça, c'est aussi très douloureux. Alors, à partir de ce constat, parce que nous, on part toujours du constat du terrain, je pense que c'est très important pour ne pas rester dans l'idéologie nous-mêmes ou pas ne parler que de choses théoriques. Nous, on veut être sur le terrain. Et donc, partant de ce terrain, on a créé l'antenne d'écoute « Nos mains ne tueront pas », qui est une nouvelle antenne d'écoute d'accompagnement et de formation des soignants et du personnel de santé, qui peuvent appeler aussi un numéro, où là, ce sont des soignants qui répondent. Ce sont des personnes qui sont vraiment aussi sur le terrain, qui répondent. Et c'est vrai qu'on a des soignants qui appellent, qui sont en grande souffrance, parce que certaines infirmières, par exemple, qui avaient pourtant vraiment cette vocation d'infirmière depuis toute jeune, décident de démissionner parce qu'elles ne veulent plus commettre des actes que leur conscience réprouve, comme l'avortement ou l'euthanasie, enfin l'euthanasie masquée, parce que l'euthanasie n'est pas autorisée en France.
J'allais y venir parce que nous parlions des problématiques liées à l'avortement, mais il y a également tous ces actes médicaux qui sont posés pour accompagner la mort, la sédation,
voilà,
qui est en particulier encadrée par la loi dite Leonetti.
Leonetti.
Ce personnel, on va parler des questions d'euthanasie, mais ce personnel de santé, en fait, quand il vous appelle pour toutes ces souffrances-là, du début à la fin de vie.
Oui.
Tous ces actes posés qui heurtent leur conscience, qui les taraudent, qui les met en souffrance.
Oui. Ça heurte leur conscience parce que je pense vraiment que quand on décide et on l'entend, hein, quand on décide, quand on est jeune, qu'on décide de s'orienter vers des professions médicales, il y a un côté qui est extrêmement humain dans cette orientation et on a vraiment envie de sauver des vies. On est idéaliste hein, quand on s'oriente vers ces professions et c'est formidable. On veut sauver des vies, on veut aider les personnes, on veut calmer leurs souffrances, on veut les aimer, en fait, etc. Et puis en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle en France, eh bien parfois, c'est pas du tout le cas. et que malheureusement, eh bien, on se sent obligé, en tout cas les infirmières, parce que c'est les médecins qui donnent l'ordre, donc elles sont obligées de le faire, par exemple, de sédater une personne, ce qu'on appelle la sédation terminale et définitive, enfin terminale jusqu'au décès de la personne. Maintenant, on sédate à tour de bras, on a beaucoup de témoignages là-dessus, c'est-à-dire que dès qu'une personne qu'on considère, entre guillemets, en fin de vie commence à être angoissée, parce que c'est normal, c'est une situation qui est angoissante quand on sent qu'on est en fin de vie, qui se pose des questions spirituelles, qui sont angoissées, etc., agitées, tout de suite, on va les sédater. C'est-à-dire sédater, on va les endormir, et puis on va augmenter la dose, et généralement, alors ça dépend, ça peut être en 3 jours ou en 1 semaine, la personne décède sans ne plus prendre conscience de ce qui l'entoure, sans ne plus avoir de conscience ni quoi que ce soit. Donc c'est une mort, je dirais, c'est la mort qui leur est volée, parce que ces personnes-là, on s'est rendu compte que si on les écoute dans leur souffrance, parfois elles sont à la fin de leur vie, et il y a des choses qu'elles n'ont pas réglées dans leur vie, c'est pour ça qu'elles sont angoissées. Et si on prend le temps de faire venir la famille, que la famille écoute cette personne, essaye de comprendre quel est le point bloquant, qu'est-ce qui s'est passé, parfois on fait venir un prêtre pour le sacrement des malades, etc., et bien soudainement la personne est apaisée et elle va mourir apaisée. Alors que si on sédate, et bien c'est terminé. Il n'y a plus cette réponse spirituelle aussi.
Voilà. Ce que vous défendez, au fond, c'est comme alternative à la sédation, c'est des soins palliatifs et de l'accompagnement.
C'est vrai que c'est peut-être mon métier de psychologue qui fait ça, mais je trouve qu'on le dit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc., il y a de moins en moins de possibilités, il y a de moins en moins de personnel, donc il n'y a plus le temps. On n'a pas le temps de passer du temps avec les personnes sur ces questions existentielles, ces questions si importantes qui fait qu'on est humain. On est humain. Et moi, c'est vrai que c'est un peu mon cheval de bataille, comme en plus avec mon métier, forcément. Je voudrais qu'on redonne de l'humain. Je voudrais qu'on passe plus de temps auprès des malades, auprès des personnes en fin de vie. Et c'est la réponse, c'est vraiment la réponse à la sédation et à l'euthanasie. Parce que quand on s'occupe des gens, les personnes, eh bien, elles ne veulent plus être endormies et elles ne veulent plus être euthanasiées. Il faut être là.
Merci beaucoup pour cet échange. Cécile Edel, présidente donc de Choisir la vie. Vous tapez sur internet Choisir la vie, vous trouverez le site internet de cette association. Vous verrez notamment qu'il y a une antenne d'écoute nationale pour les femmes enceintes qui sont en détresse, SOS Femmes Enceintes. Et le numéro de téléphone, vous le verrez, c'est le 01 46 97 76 81. Il y a également une antenne d'écoute et de formation pour les professionnels de santé qui veulent justement dire leurs difficultés, leurs détresses, leurs souffrances dans des actes qu'ils posent malgré eux contre leur conscience. On ne donne pas tous les numéros de téléphone, mais il y a là aussi toutes les informations. Et vous êtes également, nous l'avons dit en début d'émission, vice-présidente de la Marche pour la vie. Un mot sur la Marche pour la vie.
Alors la Marche pour la vie, elle a été créée en 2005. Donc vous voyez, ça fait un petit bout de temps maintenant, à l'occasion des 30 ans de la loi sur l'avortement. Pas pour fêter la loi, hein, parce qu'on ne fête pas un drame, hein, mais pour dénoncer justement les conséquences de cette loi. Et elle a lieu chaque année depuis, au mois de janvier, chaque année, la troisième week-end du mois de janvier, puisque ça coïncide avec le 17 janvier 75, date à laquelle a été votée la loi sur l'avortement. Nous sommes chaque année de plus en plus nombreux et il y a de plus en plus de jeunes, là j'en témoigne parce que moi-même j'étais assez jeune à l'époque et puis voilà, les années ont passé et on a transmis le flambeau à la jeunesse actuelle et c'est magnifique, là aussi je peux en témoigner, c'est extraordinaire de voir cette jeune génération qui se lève alors que ces jeunes sont nés, hein, sous la loi Veil, ça pourrait paraître normal, ça pourrait être banal pour eux d'avorter. Eh bien non, ils sont là et ils descendent dans la rue. Il y a des familles aussi, il y a des enfants qui descendent dans la rue en plein froid, en plein mois de janvier, pour témoigner de la valeur de la vie humaine. Et cette année, le thème sera sera sur la lumière, pour montrer qu'on ne laisse pas les femmes justement dans les ténèbres avec ce choix terrible qui est ce choix d'avorter et que quand elles choisissent la vie, on sent qu'il y a une lumière qui les... On sent que d'un seul coup, elles deviennent lumineuses, elles sont heureuses de pouvoir garder leur enfant quand on les aide vraiment.
Et nous n'avons pas dit que votre association met en lien justement avec tout un tas d'autres associations qui viennent en aide, qui accompagnent, qui font en sorte que le problème matériel ne demeure pas.
Non, bien sûr.
Qu'elle soit accompagnée aussi. Là.
On travaille beaucoup en réseau. Ouais. C'est très important d'être unis et de travailler en réseau. On est complémentaires, alors il faut être très unis.
Merci beaucoup pour cette rencontre.
Merci, merci
à vous.
Bon
séjour à Lourdes. Au revoir.
Merci.
Passage à Lourdes. Présence.
Retrouvez toute l'actualité de l'Église régionale sur le site internet de Présence en tapant www.radioprésence.com.